Radio Barque, troisième partie de notre 13e de la saison avec Christophe Sabrier. Je vous présentais tout à l'heure comme le président du GIP11, groupe interreligieux pour la paix du département. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est votre cas personnel, puisque ce qui vous a peut-être incité à créer ce GIP, c'est que vous êtes de religion musulmane, une religion que vous avez embrassée, si je puis dire, en tant qu'adulte et en toute connaissance de cause, qui ne vous a pas été inculquée par vos parents, par exemple.
Non, pas du tout.
Alors, déjà, comme c'est un phénomène qui est pas très très courant, disons-le clairement, j'aimerais savoir le processus, comment les choses se sont faites. Comment quelqu'un qui est, disons, de souche européenne et peut-être de culture chrétienne classique dans sa famille, à un moment ressent ce besoin de passer à une autre religion?
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement ou heureusement, je n'ai pas enfant reçu d'éducation religieuse, parce que mes parents, ils se trouvent, étaient ce qu'on appelle athées, hein, sans confession. Et enfant, j'étais en manque d'éducation spirituelle.
C'est-à-dire, vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti naturellement?
Oui. Alors évidemment, quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'islam était pour moi totalement inconnu, enfin, si ce n'est que peut-être le nom. Mais je ressentais un manque par rapport à mes camarades qui allaient au catéchisme, par exemple, une espèce d'attirance, de fascination. Je suis persuadé qu'il y a toujours aussi un certain atavisme, on est le fruit de parents, enfin, grands-parents plutôt dans mon cas, ou arrière-grands-parents, etc. Je me souviens avoir été frappé par l'atmosphère, une lumière qui régnait dans la ville, l'église de mon village, en l'occurrence Courson, à quelques kilomètres de Narbonne. Et tout petit, bon là je vous fais des confidences qui sont vraiment des choses très personnelles, mais je collectionnais des images pieuses, celles qu'on donnait beaucoup, ça se fait, j'imagine,
mais
moins
aujourd'hui. Mais alors du côté chrétien.
Du côté chrétien, parce que c'est notre culture,
oui, bien sûr.
C'est notre environnement, c'est le contexte, en France. Donc c'est à une époque beaucoup plus tardive. Enfin, j'ai jamais eu, évidemment, coupé avec cet intérêt, ce lien, cette fascination pour le spirituel, mais qui, avec l'âge, avec le temps, était plus en surface qu'en profondeur, comme c'était le cas quand j'étais enfant. Et donc, à une époque beaucoup plus récente, ça fait environ 9 ans, la quarantaine, on fait un petit peu un bilan de sa vie. Je pense que c'est assez classique. Hein. Bon, il n'y a pas d'âge pour ça, mais 40 ans, c'est souvent...
Oui, donc, dit, la maturité vous a amené à reposer le problème.
À repenser un petit peu ce qu'on a fait dans sa vie, ce qu'on a recherché, derrière quoi on a couru un petit peu. Notre société, évidemment, qui est très âpre de consommation, mais je ne vais pas tomber évidemment dans les images d'Épinal, etc., fait qu'il y a quand même un manque. Hein, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de nos concitoyens. Bon, il s'est trouvé que c'était l'islam. En tant que croyant, je vais vous dire, parce que c'est ce qu'on appelle en arabe maktoub, c'est écrit, donc un petit peu un destin. Hein. Mais je vous dirais que je n'ai pas eu la sensation de renier quoi que ce soit. Alors renier, évidemment, je n'ai pas eu d'éducation chrétienne. Donc,
N'avez pas eu à remplacer une religion par une autre.
Voilà, je n'ai pas eu à remplacer une religion par une autre, ça c'est un fait. Mais en même temps, je n'ai pas eu la sensation de rentrer dans quelque chose de totalement différent, d'exotique, entre guillemets, une religion extrêmement lointaine, puisque pour moi, quelque chose de très très important, c'est la beauté de la langue, et en l'occurrence la langue arabe, où je trouve que tout est là, et le mot islam, et on ne le répétera jamais assez, et en particulier dans le contexte actuel, veut dire s'en remettre à la volonté divine, avec l'idée de paix, d'intégrité, et c'est une attitude, je dirais d'abord ça. Et l'islam reprend tout les prophètes qui ont apporté finalement le même message, c'est-à-dire de soumission à Dieu. Et bon, le mot soumission fait souvent peur dans notre société individualiste ou moderne, etc.
Mais
voilà, mais dans l'idée de laisser Dieu agir. Et tous les prophètes sont honorés, mis en avant, et dans ce sens-là, et je reprends une formulation d'une dame qui est pour moi une dame extraordinaire, qui est morte il y a déjà pas mal d'années de cela, qui animait les émissions religieuses sur France 2, enfin, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, les émissions religieuses du dimanche matin, et je fais référence à Eva de Vitré-Meyerowitch, qui est une dame qui a embrassé l'islam hein, plus tard dans sa vie, bon, elle était encore relativement jeune, et qui était d'ailleurs dans une voie soufie qui se trouve, et là, celle à laquelle je suis rattaché. Donc je pourrais expliquer si ça vous intéresse, voilà ce que c'est.
Expliquez-nous justement, parce qu'on a affaire à un public qui est très peu connaisseur,
bien sûr.
Pour des raisons qu'on en devine.
Oui, et donc pour terminer avec cette dame, elle disait qu'elle n'avait pas eu la sensation de renier Jésus-Christ ou quoi que ce soit. Et oui, la voix soufie, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le cœur mystique, mais j'aime pas trop ce terme qui est un petit peu évidemment fort, mais c'est le cœur spirituel de l'islam. L'islam n'est pas un monolithe, n'est pas un seul bloc à l'image du monde chrétien. Vous avez l'état de courant qui existe outre-Atlantique.
Il suffit d'aller à Jérusalem pour voir les différentes religions chrétiennes se côtoyant et parfois s'affrontant même.
Ouais. Dans ses composantes, rien que dans le monde protestant, il y a je ne sais
oui,
comment.
Oui, aussi, voilà. Mais revenons donc à l'islam, Christophe Cabrier.
Voilà, c'est la même chose pour l'islam. L'islam n'est pas monolithe. Ce qu'on retient, c'est le sunnisme qui est majoritaire, et en particulier avec personnes qui pratiquent la religion en France. Et la voix soufie est en fait une attitude, c'est faire plus de pratiques que les pratiques que l'on connaît, c'est-à-dire la prière, le jeûne, etc., en faisant un travail plus d'introspection. Donc plus d'invocation, si je puis me permettre de comparer avec les mantras bouddhistes, par exemple, ou avec le chapelet chrétien. Voilà, c'est un travail vraiment de profondeur. Et le mot soufi vient de... Il y a plusieurs explications, mais je ne veux pas trop m'éloigner hein, de ce que je suis en train d'expliquer, mais viendrait de souf qui veut dire laine en arabe, une allusion aux vêtements simples, pauvres de ceux qui pratiquaient ces invocations. D'autres disent que ça vient du banc, avec une étymologie proche, le coin où il y avait un banc dans la mosquée où ils se retrouvaient pour invoquer, vous voyez.
Ça serait un peu comme des parfaits cathares.
Bon, j'irai pas jusqu'à ce point-là.
Pour prendre un exemple du pays, en quelque sorte.
On a une image un peu d'austérité, mais Soufi est en fait quelqu'un dans la rue qu'on va croiser, qui ne va pas forcément le clamer, mais c'est Monsieur Tout-le-Monde qui fait un travail intérieur dans la discrétion, mais qui se rattache à une confrérie, voilà, avec un maître spirituel, qui est en fait quelqu'un qui a acquis une sagesse, qui a acquis un niveau de spiritualité, qui vous donne la main pour cheminer vers ce que tout croyant cherche, c'est-à-dire la réalisation en Dieu, évidemment.
Alors Christophe Cabrier, donc vous embrassez cette nouvelle religion, à partir du moment où vous vous y trouvez bien dedans, vous ressentez le besoin d'aller finalement voir d'autres religions pour faire un groupe interreligieux. Alors expliquez-nous la genèse, si je puis dire, de ce groupement.
Alors je ne suis pas à l'origine de ce groupe, dans le sens où il existait il y a déjà pas mal d'années de cela, mais c'est vrai, il était tombé un peu en sommeil.
Vous l'avez repris au vol un peu.
Voilà, avec l'impulsion de personnes qui sont extraordinaires. Je pense à Monsieur Jas, pasteur qui n'est plus à Narbonne aujourd'hui, qui est à Uzès, à Monsieur Lumière qui est toujours en place, qui est le secrétaire du groupe interreligieux et qui est protestant aussi, et évidemment Monsieur le Père François qui est incontournable à Narbonne
et qui est très actif.
Et qui est très actif. Voilà, et j'en oublie, et pardonnez-moi, je demande pardon à ceux que je ne cite pas. Voilà, il y a environ 4-5 ans de cela, la volonté de le revivifier. Voilà. Et il se trouve que, bon, mon cas de figure est un petit peu, peut-être atypique, bon, dans le sens où je suis quelqu'un qui est né en France, donc qui n'a pas le visage de l'emploi, la gueule de l'emploi, c'est-à-dire je ne suis pas maghrébin, et parce qu'évidemment en France, quand on pense à l'islam, on va penser inévitablement à la communauté maghrébine qui est de tradition musulmane par héritage.
Très majoritairement, de toute façon.
Voilà, et...
Néo-converti, en fait.
Voilà, le mot converti m'a jamais trop...
Je dis néo, parce que c'est pas tout à fait...
Voilà, je n'aime pas trop ce mot converti, parce qu'il fait un peu mathématique, vous voyez, et justement, comme je vous le disais il y a quelques minutes, j'ai pas l'impression d'avoir renié quoi que ce soit, mais je préfère l'expression plus poétique de embrasser l'islam dans... Voilà, et donc... J'ai toujours eu cette sensation, et je pense que mes collègues du groupe interreligieux m'ont aussi sollicité pour cette raison-là, mais ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas facile, d'être un peu comme un pont avec, vous voyez, Donc une culture occidentale et un attachement spirituel, un attachement de fraternité. Et ça, c'est très important avec les fidèles de la mosquée à Narbonne. Oui.
Voilà. Et alors, Christophe Cabrier, vous faites remarquer que cette création ou cette renaissance, c'est avant la vague d'attentats qui a remis ça un petit peu sur la sellette.
Oui, bien sûr. On parle
donc ça n'était pas lié à l'actualité violente des attentats ?
Non, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Bon, évidemment, on avait tous en mémoire les attentats des États-Unis du 11 septembre qui ont fait que l'islam est venu sur le devant de la scène. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont acheté le Coran depuis ce terrible événement. Donc un intérêt sain ou moins, un petit peu plus malsain. En tout cas, non, ce n'était pas lié aux tristes événements, donc c'est avant.
Mais forcément, ça l'est devenu.
Ça l'est devenu,
voilà.
Ouais.
Et alors là, la question, j'imagine, que je me pose et que des milliers ou des millions d'autres personnes se posent, bon, alors, faut quand même situer les choses dans un contexte. On sait que la récupération politique violente d'une religion, c'est pas exclusif à l'islam. On a connu chez nous, dans notre pays, les croisades contre les cathares, puis l'Inquisition, avec la douceur de ses méthodes que chacun connaît. En France, on a connu les guerres de religion ensuite au XVIe siècle, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand on voit des gens qui prennent un fusil d'assaut, une kalachnikov, et qui vont tuer de sang-froid des gens comme ça au nom de la religion, on est obligé de se dire, mais est-ce que ça, ils ont trouvé des traces dans cette religion? Alors, vous qui la connaissez, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Alors, toute humilité, parce que je ne suis évidemment pas un théologien, mais il y a bien sûr des versets qui parlent dans le Coran, comme c'est le cas aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, il y a des moments durs, difficiles, où le prophète de l'islam, Mahomet, Mohammed en arabe, luttait contre ceux qui lui faisaient du mal, donc il y a une volonté de se protéger, et c'est un contexte. Il ne s'agit pas de lutter contre les personnes qui n'ont pas la même religion que soi.
Donc cette intolérance, elle n'est pas dans la religion?
Non, elle n'est pas. Toute religion prône l'amour, et là je ne suis pas évidemment en train de fournir un discours un peu babacool, etc., excusez-moi de l'expression que je viens d'employer, mais c'est fondamental, il y a la volonté de s'en remettre dans la paix, comme je vous le disais pour l'étymologie du mot islam. Et dans le Coran, des versets qui sont majoritaires, et bien majoritaires par rapport à ceux qui sont difficiles, qui sont vraiment des contextes bien précis, il est dit qu'il y a la volonté de parler avec courtoisie avec les chrétiens, avec les juifs. Nous croyons en ce qui a été révélé, en l'occurrence au prophète de l'islam, et ce qui a été révélé avant toi, et ça aussi ce sont des versets qui reviennent régulièrement. Cette chaîne de transmission qui se fait depuis la nuit des temps, depuis ce que l'on considère comme le premier prophète Adam, jusque donc au prophète de l'islam, qui donc renvoie à l'unicité de Dieu et donc à lutter contre le véritable travail, la véritable guerre, j'emploie ce terme exprès, ce célèbre jihad qu'on emploie dans les médias et qui veut dire étymologiquement fournir un effort, n'est pas une guerre sainte.
Ça ne veut pas dire guerre sainte, ça veut
qui
dire...
Qui a existé, mais il y a ce célèbre dire du prophète, après des batailles contre ceux qui l'attaquaient, de dire, voilà, aux compagnons, c'est maintenant que commence le véritable jihad, c'est-à-dire la lutte contre nos propres démons intérieurs, nos passions, nos pulsions. C'est ça, la spiritualité, et ce n'est pas l'apanage de l'islam. Et donc, il y a la volonté d'ouverture. Et donc, évidemment, c'est extrêmement navrant de voir ça, désolant. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire.
Oui, une remarque là-dessus, Michel.
Oui, parce que... Est-ce que ce n'est pas ça, justement, le problème, M. Chambrier? Parce que je ne suis pas un spécialiste, évidemment, de l'islam, loin de là. Mais le peu de connaissances que j'en ai, c'est la suivante. Après avoir lu des auteurs contemporains qui sont morts, malheureusement, en fait, il n'y a pas très longtemps, qui sont sur France Culture, je parle comment s'appelle-t-il, ce penseur de l'islam, qui était chronique tous les samedis, peu importe. Le problème, n'est-ce pas justement cette difficulté que l'on a aujourd'hui, en fait, dans le monde musulman, à considérer qu'on n'a pas à interpréter le texte même du Coran, qui par définition a été écrit par Allah lui-même. Donc par définition, intraduisible, en fait, impossibilité de mettre à distance, donc de l'historiciser. contrairement en fait aux autres religions de l'Ancien Testament en fait et du Nouveau, je parle des Juifs et des chrétiens qui ont une tradition en fait d'interprétation des textes sacrés. Tout en restant effectivement dans le cœur. Donc il me semble qu'on est là au cœur effectivement de la difficulté, dans, en tout cas dans nos sociétés en fait, occidentales, qui sont en partie sécularisées, avec une certaine fraction en fait, du monde musulman, qui ont cette difficulté-là effectivement à considérer qu'il y a nécessité de voilà d'avoir ce regard en fait, ce regard distancié en fait, historique en fait, et d'interprétation de textes qui doivent être systématiquement remis dans leur contexte, comme vous venez de le dire à l'instant.
Votre point de vue, Christophe Cabrier, là-dessus?
Alors, l'interprétation, elle a toujours existé, et moi je dirais en fait que il faut la mettre entre les mains de ceux qui sont compétents et des les ulémas, comme on dit, mais c'est des personnes qui connaissent vraiment. Et c'est quelque chose de, l'islam, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas, c'est vrai, de personnes intermédiaires qui vont donner la marche à suivre.
Pas de hiérarchie très concrète, alors,
on va dire. Alors, c'est une chance et en même temps, c'est peut-être une fragilité. Et le Coran, chacun va le vivre à sa façon. C'est quelque chose d'extrêmement vivant, avec des parties sombres, obscures, et évidemment beaucoup de parties lumineuses, à l'image de l'être humain, un petit peu kaléidoscopique, avec alternance de jour et de lumière. Et l'effort d'interprétation et de contextualisation a toujours existé dans l'islam. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que malheureusement, il s'est
passé, parce qu'il a été rompu radicalement.
Il y a toujours eu des personnes, évidemment, qui ont continué cette tradition, mais qui sont devenues, c'est vrai, extrêmement minoritaires. Et je suis d'accord. Et le but, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement, on retrouve cette force, cette vitalité, cette intelligence. Parce que les versets coraniques disent, voilà, des signes pour ceux qui savent interpréter, qui savent voir, qui savent réfléchir. Et ce qu'on appelle ijtihad, et c'est la même racine que le mot jihad que je viens de développer il y a quelques minutes. Ijtihad, c'est l'effort d'interprétation des textes, de contextualisation, etc. Et ça, c'est ce qui faisait la force de l'islam qui, inutile de le rappeler encore, nous est indirectement, on va dire, à l'origine de notre renaissance en Occident, grâce... ils ont été, ces savants du monde arabo-musulman, des ponts entre les vieilles civilisations gréco-romaines, grecques en particulier, et même d'autres civilisations, et notre monde occidental. Et donc, à partir du XIIe siècle, et ça correspond d'ailleurs à une décadence de la situation musulmane, hein, bon, ben, voilà, il y a une sclérose, une fermeture, et cette disparition, pas complète, donc, heureusement, il y a eu quand même toujours des personnes, des exceptions. Je pense à Iqbal au XXe siècle, qui est un des grands savants modernes d'origine pakistanaise et marginalisé. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, l'islam est en crise, et évidemment, je ne dirais pas le contraire, et évidemment, est à multiples facettes, mais cette minorité de personnes qui interprètent comme ça, en se mettant en avant, en récupérant Dieu, et en effet, vous le disiez, Monsieur Jules, ce n'est pas l'apanage de l'islam, ça a toujours existé dans toutes les religions, plus à certains moments qu'à d'autres. Eh bien, c'est vrai que c'est insupportable de voir qu'il y a une prise en otage, hein, par une minorité de personnes qui font des actes ô combien.
Voilà, et alors, à ce sujet, justement, ça sera ma dernière question, on conclura peut-être là-dessus, Christophe Cabrier. Cette violence, ces attentats, ils existent. Et ce qui surprend aussi, peut-être, qui chagrine souvent, c'est la relative absence de réaction alors, il n'y a pas de clergé islamique, certes, mais au moins des autorités islamiques pour se désolidariser de ces actes barbares. On n'entend pas beaucoup de voix à ce niveau-là. Et beaucoup le reprochent, d'ailleurs.
Oui, ça se fait. Hein. Il y a quand même
déclarations.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais,
ça sort en Narbonne, d'ailleurs, oui, à laquelle vous participiez.
Voilà, on a fait, en effet, une marche depuis la mosquée avec le groupe interreligieux et beaucoup de citoyens. Voilà, donc, mais je vous comprends, et c'est vrai que moi-même aussi, je peux ressentir la même chose. C'est peut-être dû, justement, à cette humilité, une espèce de complexe, vous voyez, à force de montrer du doigt, on a eu un côté un peu tacite. Et puis, c'est vrai que les autorités en France qui gèrent l'islam sont un peu trop politisé, mais bon, ça c'est moi évidemment qui le dis, mais je pense qu'en effet c'est une réalité, et qu'on n'a pas quelque chose de clair, de limpide. Et vous voyez, l'islam a besoin d'être un islam français.
Mais est-ce qu'on a conscience que ça nuit, que c'est nuisible?
Oui, c'est nuisible.
Nuisible étant un mot faible, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et on a besoin de couper le cordon ombilical avec l'islam, n'est plus un islam. Et excusez-moi de l'expression, et je ne veux pas blesser mes co-religionnaires du Maroc, d'Algérie, etc., mais couper le cordon ombilical avec le bled, comme on dit. L'islam est quelque chose d'universel, comme toute religion, et c'est l'étymologie du mot catholique, d'ailleurs, aussi. Hein. Et il y a un islam de France, il existe, c'est une réalité, et il a besoin de s'exprimer. Alors, à travers, en effet, ce que vous faisiez remarquer, ce n'est pas la seule explication, évidemment, mais je pense que ça, on a besoin, et c'est urgent, c'est nécessaire.
Véritable essor et un véritable développement et établissement de cet islam français.
Il y a des personnes qui sont, je pense à Raleigh Benchir qui est venu à Narbonne d'ailleurs, qui anime les émissions sur France 2.
Voilà, mais c'est là-dessus qu'on conclura en tout cas. Merci Christophe Cabrier d'être venu nous parler à la fois de votre quête de spiritualité et puis de votre expérience en la matière, et puis finalement des conséquences que cela a
Merci
sur
à vous
l'actualité.
Et que la paix règne. Il faut que nous œuvrions tous pour ça et que nous soyons surtout curieux, que nous luttions contre l'ignorance. La mosquée est ouverte à tous.
Merci encore, Christophe Cabrier. Prochain invité, ça sera... Alors, on revient dans du plus classique pour Radio Bac. Ça sera Monsieur Codorniou, donc à la fois maire de Gruissant et puis qui a de multiples responsabilités, vice-président de la région, vice-président de l'agglomération du Grand Narbonne également. Après quoi, nous recevrons Michel Py. Et puis, vous voyez, on revient un petit peu plus vers du classique politique. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Alice.